si le fichier national des empreintes génétiques avait existé.
Obélix et Astérix n'auraient pas violé Christine Boutin.
Balade 101.8, 24 heures sur 24.
Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours.
Les oreilles baladeuses sur Radio Balade.
Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a une fermeture administrative qui va arriver, quand, dans quelles conditions, combien de temps, on ne sait pas exactement. Bah, depuis tout à l'heure, la situation elle a évolué très vite, donc on savait que ça allait aller très vite. Mais donc voilà, l'arrêté de fermeture administrative de Mixart Myris, il est tombé tout à l'heure. Donc voilà, ça y est, Myris est fermé administrativement pour le moment et jusqu'à normalement mise en conformité du lieu.
Qui dépasse l'existence immédiate. Le monstre s'éveille quand vient la nuit. Le monstre, c'est la part de poésie qui nous anime et qui sommeille en vous.
Les monstres habitent les rues et les songes de ceux qui ne sont pas capables de les regarder. Les monstres, c'est vous, vous qui continuez d'inventer une réalité différente de celle qu'on tente de nous imposer.
Jamais que nous devons ni renoncer, ni démontrer.
Les activités du collectif Mixart Myris, suspendues en plein vol.
Radio Balade
101.8.
Depuis le 20 janvier, les locaux font l'objet d'une fermeture administrative après la visite surprise d'une commission de sécurité. Le bâtiment n'est plus aux normes incendie. La soixantaine d'artistes qui travaillent sur le site n'ont plus accès au lieu. Idem pour les adhérents de la dizaine d'associations installées sur place.
On atterrit ici donc en 2005 pour sortir de l'illégalité légitime à l'époque de l'ancienne préfecture. Depuis, on a travaillé sur le lieu et je crois qu'on peut dire qu'on l'a investi de manière intéressante, même si effectivement il y a cette problématique de normes. Et donc on est prêt à rester là, mais on est prêt aussi à appréhender toute autre forme de scénario et déménager sur un autre lieu.
Cette artiste plasticienne occupe depuis 7 ans un atelier à Mixart. Impossible pour elle de mener à bien ses travaux en cours.
À titre personnel, moi je le vis super mal et j'ai même eu un jour de sidération complète en me disant « mais non, mais c'est pas possible ». En plus, dans le contexte de crise sanitaire, on nous demande de rester chez nous ou sur nos lieux de travail, être jeté à la rue dans ce moment-là, c'était tellement hallucinant.
Simultanément, Toulouse Métropole, propriétaire des murs depuis 2018, n'a pas renouvelé la subvention de 160 000 euros allouée à Mixart. Cette expérience de culture alternative existe depuis 26 ans à Toulouse. Les négociations avec la collectivité tournent au dialogue de sourds.
Nous n'avons pas réussi à trouver de solution qui mette en sécurité aussi bien les responsables de Toulouse Métropole que les gens qui y travaillent. Donc il y a un moment donné où on dit... Il faut qu'on s'interroge. Et la suspension de cette subvention correspond aussi à un début d'interrogation.
Le collectif d'artistes autogérés vient de lancer une pétition en ligne qui a déjà reçu le soutien de 8000 personnes.
Sur une journée, des dizaines d'associations et leurs salariés qui sont délogés et dont les projets sont aussi mis en péril, c'est... Plus de 30 compagnies qui ne pourront pas venir en résidence cette année comme c'était prévu.
beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc voilà, on est vraiment dans l'urgence de renouer ce dialogue pour trouver des solutions au projet MixArt Miris. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on va continuer et organiser beaucoup de choses dans les prochains jours à venir. Donc merci.
Vous êtes magnifiques! Nous sommes magnifiques! Donc évidemment que le principe de ce rassemblement, ça va être de leur faire la démonstration qu'on ne leur tendra pas la moindre perche pour qu'ils puissent justifier de leurs attaques contre le défilé. Donc si vous voulez bien, on va faire le pari un peu dingue de ne provoquer, malgré notre colère, qui restera joyeuse, ne provoquer aucune dégradation de quelque nature que ce soit. Et on va leur montrer que c'est possible et qu'ils n'auront aucun prétexte pour s'attaquer à ce rassemblement, aucun prétexte pour tenter de discréditer MixArt, parce que là, c'est ceux qui vont s'attacher à essayer de faire. Soyons tous conscients et toutes conscientes qu'aujourd'hui, on est sous contrôle permanent dans le cadre de cette fermeture administrative. Et qu'on ne leur laisse aucune raison de pouvoir dire qu'on ne respecte pas ce putain d'arrêté de fermeture administrative. Sinon, effectivement, ensuite, c'est l'expulsion et la liquidation de MixArt. Ils n'auront pas ça parce qu'on est plus fort et plus forte qu'eux. Donc, des stickers, des confettis, c'est pas dégradant. Péter les vitrines, salé. Et le tag aussi, malheureusement. Donc on compte sur vous dans tous les cas. Belle fête, parce qu'on est là pour faire la fête. Et à suivre. Et laissons Jean-Luc dans son ridicule.
Technique de la chose, de la direction de la sécurité civile des risques majeurs de la ville de Toulouse, dont la mission est de contrôler tous les lieux qui reçoivent du public aux normes ERP, pour soit leur permettre de valider la continuité de leur activité, soit au contraire de préconiser des éléments concernant la sécurité des publics, de correction des choses qui sont en place, voire des fermetures administratives s'ils considèrent que les dangers en matière d'accueil public sont imminents. Donc évidemment qu'en ayant cette commission, on pouvait se douter du résultat, enfin on connaissait le résultat immédiatement. Pardonnez-moi, on va mettre ça en stand-by. Et donc évidemment que tout de suite à la sortie de la visite, un avis favorable était oralement émis. Et donc ensuite s'ouvrait la procédure d'une expulsion administrative possible. Donc pour être tout à fait précis à cet endroit-là et être clair avec vous toutes et vous tous, là ce qu'on ne mesure pas, donc oui, pardonnez-moi la précision, c'est qu'on a eu un délai de 48 heures, une fois qu'on a eu la notification, donc est arrivée lundi dans la matinée.
Les oreilles baladeuses sur Radio Balade.
On a eu un délai de 48 heures pour produire des pièces, dont une attestation sur l'honneur pour l'arrêt des activités de spectacle et type porte ouverte. Je vous emploie les termes stricto sensu tels qu'ils ont été employés. Et de pouvoir fournir également un dossier comprenant tous les aménagements que nous souhaitions faire ou déjà existants, avec un dépôt en permis de construire. Donc vous vous doutez bien que cette deuxième pièce, autant l'attestation, l'association a décidé de la produire. De toute manière, dans le contexte Covid actuel que vous connaissez, on peut considérer qu'on n'a pas grand monde à accueillir en termes d'événements. On n'a pas tellement de capacité de faire quelque événement que ce soit. Concernant le deuxième dossier, c'est une pièce improduisible, finalement. Quoi. Donc, dans un délai de 48 heures, on pouvait considérer que c'était un coup de pression supplémentaire pour mettre à mal la décision finale, qu'une fois que les pièces sont produites, il y a une nouvelle commission et des décisions qui sont prises concernant les modalités de cette fermeture administrative. Donc là, il y a plusieurs scénarios. Fermeture administrative partielle, donc concernant l'accueil public au sens événementiel du terme, ou fermeture plus globale du lieu, avec y compris comprenant la notion de public applicable aux adhérents, qui ne sont donc pas des salariés de l'association, n'ayant pas de lien de subordination de quelque manière que ce soit d'un point de vue travail avec l'association, et donc pouvant être également considérés comme du public. Donc vous doutez bien que la nuance est importante à l'heure actuelle et dans le contexte actuel. On a alpagué Jean-Luc Moudin ce matin, alors qu'ils avaient une réunion de bureau de Toulouse Métropole. C'est moi qui ai pris en charge ce petit événement, on va dire. On peut considérer que la réaction était quand même une posture de ce qu'on appelle « droit dans ses bottes ». Je crois que les termes ne sont pas exagérés ou excessifs, dans la mesure où M. Moudin, qui effectivement avançait, la loi est la loi, nous sommes là pour l'appliquer, nous appliquons la loi. Donc malgré nos 25 ans, parce que ça fait quand même un moment qu'on se trimballe avec ces messieurs-dames, malgré nos 25 ans d'histoire, là on ne peut pas dire qu'on en était à l'amour, hein. C'est loin de là. Donc ça a commencé, ça semblait pouvoir confirmer le fait qu'on allait vers un rapport dur, et peut-être une volonté non seulement de fermer le lieu, mais voire d'éradiquer ou de fragiliser, ou de, en tout cas, autant que possible, l'association pour qu'elle-même n'ait plus les moyens de pouvoir exister et qu'au-delà de la problématique du lieu aussi, tout soit nettoyé. Petite lumière dans ce tunnel, je vais essayer de ramasser, hein. Petite lumière dans ce tunnel-là, lorsqu'on a retransmis les pièces ce matin aux 11h30, qui était la date limite de délai de dépôt des pièces, on s'est mis en contact avec la direction de la sécurité civile. Et là, curieusement, c'est à libre interprétation, mais en tout cas, la personne en contact semblait, elle est rentrée dans un processus de justification de leur mission, qui sont tout à fait légitimes. Hein. Effectivement, personne n'a intérêt à ce que des gens brûlent dans un lieu, qu'il soit culturel ou de quelque nature que ce soit. Nous, on l'assume depuis de nombreuses années parce qu'on considère que face à cette légitimité, on en soulève une autre, qui est celle qui, effectivement, il y ait des espaces où il y ait ces tentatives d'expérience liées à de l'autogestion, à la création, etc., sont nécessaires d'un point de vue utilité publique, intérêt général. Donc après, c'est une question de comment on mesure ces deux légitimités-là, quoi. Donc, en tout cas, ce qui nous laissait entendre, par ailleurs, ce technicien, c'est que la commission donc allait se réunir, prendre connaissance des pièces que nous fournissions, donc avec quelques éléments, hein, on proposait de tenter de réduire les risques liés à la sécurité incendie, en dégageant les lieux de stockage, etc. etc. Enfin, on montrait notre bonne volonté, notre conscience en tout cas, toujours plus aiguisée de ces problématiques de sécurité. Et donc, il laissait entendre qu'effectivement, pour l'instant, il travaillait sur des scénarios où on ne serait pas sur une fermeture totale du lieu. Ou, s'il y avait fermeture totale du lieu, elle serait temporaire, pour permettre une ouverture ultérieure pour, à minima, favoriser les ateliers de création. Donc, tant que la commission ne s'est pas réunie, tant qu'on n'a pas sa réponse, on n'en sait rien. Mais, parce que nous sommes transparents, intègres et honnêtes, on vous fait part de cette information dans tous les cas.
Radio Balade
101.8.
101.8.
Vous amenez avec vous le désir, l'or et l'envie. Personne ne sait résister au grand soleil de l'or, au fin couteau de l'envie, au vin lourd du désir. Vos paroles sont douces, vos mains sont ouvertes, vous dites que vous venez nous aider. Nous avons toujours craint ceux qui parlaient comme vous. C'est un dernier secret que nous vous confions. C'est le plus grand secret que nous remettons entre vos mains avides. Ce qui veut nous anéantir est en réalité ce qui nous est le plus favorable. Entrez, prenez ce qui vous enchante et détruisez le reste. À la fin des fins, restera l'indestructible, le trop léger pour mourir, le trop fin pour brûler. Autour de cela, nous nous retrouverons, vous et nous, ensemble.
Manu, moi je suis venu plusieurs fois au Mixer Mairie, j'ai connu ça par des copains et c'est un endroit vraiment magnifique, quoi. Ça fait pas longtemps que je suis à Toulouse, ça fait quelques années. Et je connais pas trop le monde de la culture toulousaine, mais j'ai l'impression que ça, aujourd'hui ça bouge bien. Et puis Mixart, c'est vraiment un endroit sympa, quoi. Vraiment un endroit sympa et open, quoi. Tu vois, ouvert et, ouais. Et voilà. Je me souviens, ouais, c'était une soirée, c'était pas une soirée techno, c'était une soirée hip-hop, je crois. Et il y avait, on donne ce qu'on veut à l'entrée, hein. J'avais donné 5 balles, je crois. Et, c'est un endroit ouvert, un grand ouvert. Ça m'a un peu rappelé le Dock des Suds de Marseille, un peu dans cette ambiance un peu industrielle. C'était vraiment beau. J'ai vraiment kiffé.
Moi, je suis une spectatrice de Myris, que je connais depuis, ça fait 2 ans que j'y vais, régulièrement à des soirées. C'était des concerts que j'ai vus. D'accord. Et après j'y suis retournée pour des expos, des choses comme ça en journée. Parce que c'est un lieu de culture, mais aussi parce que c'est un lieu de rencontre et parce que c'est un. Ouais, je sais pas. C'est un lieu collectif, c'est un lieu qui véhicule des trucs qui me semblent importants. Et je trouve que c'est injuste qu'il soit menacé de fermer. C'est injuste que ça ferme.
Si je suis là, ça veut dire que je soutiens ce qui est en train de se passer, à savoir que je suis contre cette fermeture. Et que je trouve ça très, très mal choisi déjà au niveau du moment, enfin très mal choisi en général, mais particulièrement de faire ça maintenant. Il faut essayer de faire ça maintenant. Donc, c'est important d'être là et de défendre la place de Myris dans Toulouse. Après moi Myris j'ai déjà travaillé, j'ai déjà joué là-bas, j'ai été accueilli plusieurs fois en résidence là-bas et pour moi c'est un espace où je vais de temps en temps on va dire, je ne suis pas un habitué, mais je trouve que c'est une place qui est là et qui doit rester là et c'est vraiment important qu'un lieu comme ça demeure dans une ville comme Toulouse, voilà. Donc d'où ma présence ici.
Là parce qu'on suit l'histoire depuis toujours et on fait la même chose dans les campagnes, on a fait 100 km pour venir, on vient de Saint-Antonin pour y être allé, pour en faire des choses ensemble, l'ancienne préfecture, etc. Quoi.
J'ai relevé la tête à l'instant et le battement qui s'aligne. Entre mon cœur et ce qui me reste de temps, me murmure ce que je n'avais pas su lire entre mes propres lignes. Parfois la cécité est une félicité pour avancer au hasard, presque une nécessité. Et il fallait sûrement que j'arpente la pente abrupte pour prendre conscience de ma ténacité, réaliser que je pouvais enfin m'autoriser à respirer plus loin que cet air motorisé, que j'avais toujours senti quelque chose de plus grand dans un monde si petit qu'on mate les aurores à travers un écran. J'ai relevé la tête à l'instant et j'ai humé le ciel. J'ai souri à ce nouveau sentiment et j'ai mangé ces baisers de miel. Rien à voir avec un éveil de mes sens, non, je fais juste la paix au lieu de faire la résistance. J'ai lâché prise et j'ai gonflé mon être, la porte est close. Alors j'ouvre la fenêtre, j'ai relevé la tête à l'instant, et j'ai compris qu'il n'y a que l'amour. J'ai relevé la tête à l'instant, et c'est comme un rayon de lune en plein jour. Je n'offrais au monde qu'un pâle éblouissement, la lumière vulgaire d'un soleil adapté, alors que ma lueur, une fois sans vêtements, était une bien plus large et douce clarté. J'ai relevé la tête à l'instant, et j'ai fait mon choix. Je vais lui offrir tout ce que j'ai de vivant, ce jour lui abandonner tout de moi. Et ce n'est pas pour l'en rendre responsable, provoquer encore des promesses de sable, mais pour dénuder en moi une absolue vérité. On a le droit de recevoir ce qu'on a mérité. J'ai relevé la tête à l'instant, et j'ai compris que toutes les routes m'amenaient vers elle inexorablement. Chaque joie, chaque moment, chaque doute. Alors il fallait sûrement que j'endure assez pour sublimer mon élan. Contempler les bonheurs simples pour en prendre la mesure, apprendre à ne plus parler qu'au présent. Oui, il fallait que je sois finalement capable de n'être plus que moi, nu face au miroir, de vibrer dans le vide, de saisir l'impalpable. Il fallait sûrement que j'accepte de ne rien savoir. Il fallait que je rende les armes et trouve mon Alésia, que je rature 100 fois avant la Mona Lisa. Je ne suis pas vulnérable tant, c'est une évidence. Je veux le calme et la tempête du moment que ma vie danse. Du moment que ma vie danse. Du moment que ma vie danse. Du moment que ma vie danse avec la sienne. J'ai relevé la tête à l'instant et je lui souris.
Les oreilles baladeuses sur Radio Balade.
Moi, je pense que par rapport à ce qui se passe depuis le début, on l'a bien vu en ce moment sur Toulouse, il y a plusieurs lieux qui ont été mis à mal de cette façon. On peut symboliquement parler du bleu-bleu, comme la façon dont ça s'est fait. Alors, je ne dis pas qu'on est au même niveau que le bleu-bleu, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Et puis, on aimerait bien connaître les raisons qui, d'un coup, pendant 15 ans, on ne s'est pas préoccupé une seule fois de la santé ou des risques des artistes qui sont là et qui continuent à produire comme ils peuvent dans le froid l'hiver et dans un état de chaleur l'été insupportable. Donc, on le fait parce qu'on pense que c'est essentiel. Et là, d'un coup, on nous attaque pour effectivement la mise en sécurité. Ça tombe effectivement en plein confinement, ça tombe en plein réduction de tout ce qui est culturel et de la vie culturelle aujourd'hui en France. Oui, ça correspond, moi, je pense, à un calendrier qui est bien mis en place de leur part. En tout cas, moi, j'ai réellement des doutes sur leurs actions et la façon de faire. Et en tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que nous aussi, on est réactifs et que si eux, en 48 heures, nous mettent effectivement le lieu en péril, nous, on est capable aussi de mettre en péril les choses en peu de temps. Et j'espère qu'on sera nombreux à continuer le combat et la lutte pour tout simplement que la culture puisse continuer à exister, que ce soit à Toulouse et au-delà de ses frontières. Parce que sans ces éléments-là, je ne vois pas comment on peut continuer à avoir une société, en tout cas la société qu'ils imaginent, c'est-à-dire rentrer à 18h, aller bosser, je pense que ça convient à personne. Et que un lieu comme Miris permet que ça puisse continuer à exister. Et puis voilà, qu'on soit tous ensemble. Et je crois que la preuve en est aujourd'hui et avec tous les retours qu'on a pu avoir.
En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les dernières engagées, Miris, mais depuis le début, donc c'est pas une nouveauté hein, que Miris soit un espace de l'engagement, quand on revendique un lieu géré en autogestion, quand on revendique une liberté totale de création, de programmation, etc. etc. Évidemment que c'est une forme d'engagement. Quand on travaille sur les réseaux nationaux, tels que Artfactories autre part, sur les notions de commun, de lieu intermédiaire indépendant, évidemment que ce sont des formes d'engagement politique. Là, en l'occurrence, les derniers qu'on a pris, en tout cas, on pouvait imaginer que ça allait tendre un tant soit peu. Effectivement, le collectif a décidé d'afficher une prise de position sur le champ électif, mais comme on avait pu le prendre à l'époque démotivé, hein, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont connu cette magnifique période démotivé, et Salam Okran est là, il pourra peut-être en dire un mot. Mais le processus de tentative de démocratie directe que sous-tendent ces initiatives citoyennes, évidemment que Miris se reconnaît dedans, et évidemment que Miris
tente de soutenir à son endroit, en toute humilité, toutes ces formes d'initiatives. Donc c'est comme ça qu'on a pu accueillir les Gilets jaunes, parce qu'on considérait, malgré toute la complexité du mouvement, son intérêt et son ingénuité, qui a fait très largement débat en interne, il faut bien l'imaginer, entre « ouais, mais c'est truffé d'extrême droite, ouais, mais rien, rien ». Pour autant, ce qui a permis au collectif de décider d'accueillir effectivement des commissions des Gilets jaunes en son sein, c'est bien parce qu'on avait cette tentative de réappropriation de l'espace, via ces ronds-points, et une tentative de réappropriation de la parole publique, et une tentative de redéfinition de qu'est-ce qui fait l'intérêt général et l'utilité publique, et comment interviennent dans toutes les modalités de gouvernance, comment réintervient la citoyenne, le citoyen, qui pour nous sont des questions éminemment contemporaines, y compris qui renvoient aux urgences climatiques, aux urgences sociales, aux urgences démocratiques. On peut considérer qu'il y a ces trois pans-là qui nous paraissent essentiels, et évidemment que l'urgence démocratique l'est tout autant, et qu'on ne peut pas traiter une question indépendamment de l'autre, dans tous les cas, quoi. Et que c'est bien par l'expérimentation qu'on peut éventuellement entrevoir d'autres solutions qu'un simple néolibéralisme qui, soi-disant, se responsabiliserait sur le climat.
Les oreilles baladeuses sur Radio Balade.
Donc, on peut imaginer que, après, encore une fois, on n'est pas dans leur tronche. Hein,
c'est impossible à trouver.
Et puis peut-être qu'il ne faut pas trop le dire. Hein. Si on veut que les choses se passent...
Nous, on a toujours eu l'idée de parler franchement. Je crois que c'est ce qui a fait la définition de Mixart dans sa notion d'engagement et de clarté et d'intégrité. Et c'est comme ça que ça elle a été posée dès le premier squat, dès la première occupation illégale. C'est de cette manière-là que les choses ont été posées, y compris avec des partenaires publics. Donc nous, il n'y a pas de raison qu'on change à cet endroit-là. Donc on émet une hypothèse, elle pourra être contredite, corrigée. C'est-à-dire la presse sert à ça, hein, aussi, où on pourra en parler directement si enfin on arrive à se remettre autour d'une table.
Parce qu'il y a aussi la possibilité, si vous avez la sécurité civile d'un côté et la métropole de l'autre, la possibilité qu'il n'y ait aucun lien dans cette décision de l'un à l'autre, et du coup que ça vous rende service parce que les travaux pourraient avoir lieu par l'impulsion de la métropole. C'est peut-être une bonne nouvelle finalement.
C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on va essayer d'en faire une bonne nouvelle. Mais encore une fois, à l'heure là actuelle, à cet instant en tout cas, il est trop tôt pour pouvoir le dire. Tout dépendra effectivement des modalités de fermeture que va proposer la direction de la sécurité civile et des risques majeurs. Là on saura exactement à quoi s'en tenir. Et ensuite, on verra si effectivement ça permet aux gens de redevenir un peu intelligents, intelligibles, et de se remettre encore une fois autour d'une table. Et de travailler un peu sérieusement, quoi.
Jean-Luc Moudin vous dit qu'il ne fait qu'appliquer la loi, c'est pas lui en l'occurrence. La sécurité civile, c'est pas lui qui a la main là-dessus.
Je vous laisse interpréter ces propos, je ne fais que vous les rapporter.
D'accord.
Mais en tout cas, si les garants, le maire d'une commune a des responsabilités de garantie de la sécurité de ses citoyens, donc bien sûr que ça incombe à ses responsabilités et au respect de la loi, bien entendu, quoi. Ça fait partie de ses prérogatives.
La décision de justice dernière.
Pardon ?
La décision de justice prononcée par le maire, et pas par la...
Enfin, c'est pas une décision de justice, hein, attention, hein, c'est une décision...
D'accord.
Elle doit être actée par le maire.
D'accord.
Et le fait d'avoir eu ce comité d'accueil tout à l'heure sur la l'esplanade autour de Métropole, c'est inclinerait plutôt au pessimisme, pour le coup, par contre. C'est quand même étonnant que 30 policiers débarquent d'un coup et empêchent ce qui devait se passer.
Ça pourrait. Hein. Là, après, moi, je vous avouerai que ça pourrait, c'est con, on m'a dit. Voilà, on vous donne encore une fois tous les éléments. Hein.
C'est bien pour la prochaine fois.
Donc, c'est pour vous dire que nous, on ne va pas s'arrêter à ce coup de force-là supplémentaire. Pour nous, là, l'intérêt maintenant, c'est de savoir comment se positionne la direction de la sécurité civile et comment ensuite, derrière, se positionnera Toulouse Métropole en fonction de la décision et des responsabilités des uns et des autres par rapport à la situation et notamment la situation inhérente à la sécurité des personnes.
Pour soutenir la culture en général, et Mixart Miris quand même, parce que ce qui se passe, c'est catastrophique. Si on commence à faire partir des lieux comme ça va continuer. Et puis a priori, ça se passe un petit peu partout en France à l'heure actuelle. Donc voilà, si on pouvait faire en sorte que ça s'arrête ici, ça serait pas mal. Enfin, moi, j'ai connu déjà quand c'était rue de Metz, quoi. Voilà. Mais en y allant comme ça, et puis par des amis, ainsi de suite. Mais je ne suis pas artiste sur le lieu.
Ah, je suis là tout simplement pour soutenir Mix Armeris. Mais au-delà de Mix Armeris, c'est toute la question de la place de la culture dans la société aujourd'hui. Et la question de la culture nous renvoie à la question démocratique, à la question sociale, etc. Donc, quelle ville, quel modèle de société on veut ? Bah aujourd'hui, je constate tout simplement que la ville de Toulouse a été à se vendre petit à petit, morceau par morceau, pour les promoteurs, les immobiliers, les finances, etc. Et que, bah, après le bleu-bleu, c'est Mix Armeris. Avant, ça a été le DAL à l'hôpital à Grave, etc. Et après, on nous pend à une réforme de sécurité globale, de répression, etc. Donc, je pense que stratégiquement et globalement, ils sont en train de mener une guerre sociale contre les pauvres, même la bourgeoisie moyenne, hein, tout simplement. Et essayer de consolider et de créer une métropole qui répond à ces exigences dites économiques, mais en fait, il n'y a rien d'économique là-dedans, c'est que de la finance. C'est le mètre carré qui compte, tout simplement. Et tout ce qui est, en plus, le double objectif, c'est tout ce qui dérange, tout ce qui est critique, on l'écarte, on l'occulte et on le déplace et on le ferme. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, je connais le lieu depuis qu'ils étaient à rue de Metz. Donc j'y étais, hein, on avait ramené des amis, des apatistes à l'époque là-bas pour créer des conditions de rencontre et d'échange, tout simplement entre différentes expériences. Et donc j'ai suivi à Mix Armeris là où il est aujourd'hui. J'ai pas mal bossé avec TV Bruit là-bas. Donc je sais qu'il y a des choses superbes qui se font, qu'il y a de l'innovation, qu'il y a de la solidarité, qu'il y a de partage. Et ces espaces, on en a besoin aujourd'hui dans une société où il n'y a plus de sens. Elle ne produit plus rien, si ce n'est que le matériel, l'argent, la surconsommation. Alors, les effets écologiques, bien évidemment, on les connaît, ce n'est pas la peine de répéter les mêmes choses, puisque c'est lié à la manière dont on produit les choses, à la manière dont on veut organiser la société. Donc je pense qu'il faut que continuer ces mouvements de résistance, parce que la bataille n'est pas finie.
Et maintenant, nous allons disparaître. C'est la nouvelle de notre mort que nous voyons briller dans vos yeux, frémir à vos lèvres. Vous amenez avec vous le désir, l'or et l'envie. Personne ne sait résister au grand soleil de l'or, au fin couteau de l'envie, au vin lourd du désir. Vos paroles sont douces, vos mains sont ouvertes. Vous dites que vous venez nous aider. Nous avons toujours craint ceux qui parlaient comme vous. C'est un dernier secret que nous vous confions. C'est le plus grand secret que nous remettons entre vos mains à vide. Ce qui veut nous anéantir est en réalité ce qui nous est le plus favorable. Entrez, prenez ce qui vous enchante et détruisez le reste. À la fin des fins, restera l'indestructible, le trop léger pour mourir, le trop fin pour brûler. Autour de cela, nous nous retrouverons, vous et nous, ensemble.
Radio Balade
101.8.
Des collectivités, institutions ou autres
quels sont les soutiens dont vous bénéficiez déjà, d'un point de vue financier ou d'autre nature?
D'un point de vue, je le fais, les côtés techniques. D'un point de vue financier, en général, on tourne annuellement sur des budgets de 400 à 500 000 euros, suivant les années. Sur ces 500 000 euros, 400 à 500 000, la moitié sont couverts par des subventions. L'autre moitié sont couvertes en autofinancement. Et je parle de véritable autofinancement. Donc, c'est les adhésions, c'est les pompes à bière, c'est les événements, c'est l'action économique, on va dire, l'activité économique propre au projet. Là-dessus, le premier financeur est Toulouse Métropole, à hauteur de 160 000 euros. Donc, c'est pas rien, hein, évidemment. Le deuxième financeur, une époque, on avait l'État qui était deuxième financeur, qui ont fini par se désengager, prétextant le fait qu'on n'avait pas de licence d'entrepreneur du spectacle, parce que n'ayant pas les normes accueil public, tatitatam, d'une convention pluriannuelle d'objectifs avec la DRAC, on est passé à 75 000 euros, on est passé à zéro. Donc c'est vous dire, hein, ça peut aller en 4 ans, ça a été nettoyé. Donc ensuite il y a la région, à hauteur de mémoire 19 000, si je ne dis pas de bêtises, et le département à hauteur de 18 000. Dont on pourrait, alors c'est pas rien, hein, des euros, des sommes comme ça, ça peut nous tous dire « Ah ouais, quand même, ça va, Mixart, quoi. » Donc en fait, c'est pas grand-chose. 4,4 millions de travaux tels qu'il avait annoncé dans une communication autour des plans de cofinancement Toulouse Métropole, région Occitanie, en février 2019. Donc c'est des plans qui, de 19 à 21, là en l'occurrence, de 2019 à 2021, parmi les scénarios de cofinancement que se proposait de mettre en œuvre Toulouse Métropole et la région, apparaissait Mixart avec le projet de mise en conformité à hauteur de 4,4 millions, alors que Toulouse Métropole bloquait sur un budget de 3 millions dont on sait qu'il n'est absolument pas suffisant pour mettre en conformité le lieu tel qu'on le pratique, tel qu'on l'expérimente en tout cas depuis que nous sommes installés ici. C'est-à-dire oui, ça pourrait suffire pour changer la toiture en fibre-ciment amianté dont ils se soucient guère. Hein. Alors certes, l'amiante figé, c'est censé ne pas représenter de danger, soi-disant. Je pense que dans 10 ans, on dira, ben si, c'était dangereux aussi, tout autant que l'amiante floqué. Mais bon, on verra ce que dira l'histoire à cet endroit-là. Rien que la toiture, c'est 1 million, grosso merdo. Donc vous imaginez bien que sur un budget de 3 millions, 1 million qui part dans la toiture, plus les intermédiaires, architectes, bureaux de contrôle pour valider toute la nature des travaux qui sont faits, les dispositifs sécurité, etc., etc. À l'arrivée, il reste guère moins d'1,5 million pour réaliser des travaux d'aménagement liés à la sécurité incendie, liés à la confortabilité des ateliers, entre guillemets, faire que des espaces qui génèrent des nuisances sonores puissent être insonorisés, histoire de ne pas emmerder les voisins, parce que ce n'est pas notre propos d'emmerder les voisins, etc., etc., etc. Donc il est évident que ce budget, c'est ce qu'on argumente depuis des années, depuis qu'ils sont revenus aux affaires en 2014, depuis qu'ils ont acheté le lieu en 2018, parce qu'il faut le savoir, donc ils sont propriétaires des locaux désormais. Depuis qu'on a fait cette étude de faisabilité en 2017 concernant quel projet architectural d'aménagement par rapport aux besoins, qui est chiffré les travaux entre 7,4 millions, je crois, de mémoire, à 11 millions suivant les scénarios, et que là, évidemment, que 3 millions, c'est infaisable. Donc, quand on a vu ça, cette annonce à 4,4 millions, on s'est dit « Ah, là, il y a une volonté, la région, la métropole » serait prêt à appréhender de mettre 4,4 millions sur la table. Le département sera en capacité d'intervenir. L'État pourrait être sollicité, y compris par la métropole, sans les engager directement par rapport à des dispositifs liant les collectivités territoriales à l'État pour participer de projets de cofinancement. Les fonds européens également peuvent être sollicitables sur tout l'aspect énergétique du lieu, etc., et sur lequel on souhaiterait évidemment avoir un regard et être extrêmement proposant, etc., etc. Donc là, de 4,4 millions, on pouvait imaginer qu'effectivement, on allait vers le scénario d'un budget enfin crédible pour traduire architecturalement le projet Mixart Miris dans ses locaux. Depuis cette annonce-là, on a eu beau les lancer, hein, les féliciter de cette annonce, et de voir, alors maintenant on se met au travail, on y va, super, pas de nouvelles, pas de réponse, c'est un silence mortifère auquel on était confrontés, quoi.
Et puis on est aussi confronté à une non-compréhension aussi du projet. À chaque fois qu'ils nous proposent une convention, on est quand même assez loin de ce qui se pratique au sein de Miris. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que si on veut collaborer, il faudrait qu'on soit maîtrise d'usage. Parce que les usages, ici, on les connaît, on sait ce dont on a besoin et on sait effectivement comment on veut évoluer. Et ça, on sent bien qu'ils ont une sourde oreille. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est mettre aux normes le bâtiment, les ateliers, et puis qu'il n'y ait plus que les ateliers qui fonctionnent. Mais Miris, ce n'est pas ça. Miris, ça va bien plus loin que ça. C'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de rencontre entre artistes, entre pratiquants, entre publics, entre les citoyens. Moi, ici, je ne suis pas artiste, je suis chargée de production, mais ça, heureusement que je suis là, ça me permet d'évoluer et d'avancer aussi dans mon métier. Donc, c'est un lieu de rencontre et d'expérimentation très important et qui ne se justifie pas juste uniquement par des ateliers qu'on consommerait. C'est-à-dire, je ne viens pas payer ici 50 euros à l'année mon atelier juste pour pratiquer, puis je rentre chez moi le soir. Non, ce n'est pas ça, Miris. C'est une aventure humaine avant tout. Une aventure humaine qui a une place dans une société et qui essaye de montrer autrement comment on peut faire autrement de la culture et la partager avec les autres. Et ça, je pense qu'eux, ils sont complètement sourds à côté de ça. Et c'est pas pour critiquer les camarades, mais quand on voit les projets sur lesquels ils financent largement et qui ne sont pas pour moi des projets culturels et axés sur ça. Je vais citer, ça va peut-être faire rebondir certains, mais là, si on prend en comparaison, pour la machine, c'est un lieu où on consomme, où on vient effectivement, mais on n'y passe pas du temps, on n'y vit pas, on ne partage pas de la même façon. Ici, on propose autre chose. Ça ne veut pas dire que l'un va sans l'autre. Bien au contraire, mais justement, ça fait 25 ans qu'on est là, 25 ans qu'on fait nos preuves, et là aujourd'hui, on est ramené à un truc de sécurité. Je pense que là, on a, on nous montre très largement ce que la politique, que ce soit de la métropole ou de la mairie, veut mettre en face, c'est-à-dire des choses qui sont brillantes, qui sont rayonnantes, qui font venir un public certainement qui a les moyens, et pour le reste, eh ben, on s'en fout. Voilà, moi, ça serait la dernière chose que je dirais à propos de nous.
Une douce amusée sont des livres enceintes, égaux, solidaires. Un jour, on proposa au dragon un lieu sympa où continuer à créer. Il l'accepta, ronronnant, tranquille, confiant. Puis arriva une grande épidémie, on l'appela la grande épidémie. Tous s'arrêtèrent de vivre pour ne pas mourir. Les dirigeants décrétèrent la culture comme non essentielle. Tous furent muselés, masqués, et le dragon fut laissé. Quand soudain le maire de la ville essaya d'enfermer le dragon. Il avait soudainement peur des normes de sécurité. Alors il préférait l'enfermer. C'était sans compter sur la nature même du dragon qui se réveilla. Personne n'enferme un dragon créatif. Il n'y a pas de fin à mon histoire car cette histoire s'écrit au présent. Nous avons la possibilité de continuer à faire vivre ce dragon. Aujourd'hui nous sommes nombreuses et nombreux. Nombreux sont les dragons, alors criez, rugissez, aboyez, les dragons sont là.
Les oreilles baladeuses, les oreilles baladeuses,
donc,
radio baladeuses.
Je suis Salah Mokran de l'association Tactique Collective. Et voilà, je vais juste dire un mot d'abord, évidemment, pour exprimer notre préoccupation et notre soutien. On est des compagnons de longue date et de longue route. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je le fais, c'est parce que voilà, je le dis et j'exprime ce soutien-là. Et peut-être aussi, il faudra qu'ils prennent conscience, je dis « il », espèce de « il » un peu général, hein, de ce qui pourrait se passer si d'aventure... on allait voilà, vers des décisions ultra négatives suite à ce qui se passe là. Je ne le pense pas, parce que je crois que effectivement les décideurs politiques ont eux-mêmes conscience de la place, de l'importance qu'a ce projet-là et qu'a Mixar Miris dans notre histoire, dans notre ville. Et tu l'as dit, Joël, pas seulement dans notre ville. L'autre chose que je voudrais dire par rapport aux raisons, moi je veux préciser un truc. Mais pour en avoir été témoin et pour en être témoin encore aujourd'hui, Mixar Miris, c'est un lieu engagé, c'est pas un lieu partisan. Alors effectivement, il y a des moments forts du débat démocratique ou du débat politique ou de l'actualité sociale où Mixar prend position, comme nous on peut le faire parfois aussi. Mais. Il faut vraiment, c'est pour moi l'occasion de réaffirmer que on est ici dans un lieu, dans un projet d'intérêt général. Et que le quotidien, c'est ça, c'est l'intérêt général. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, quoi. C'est cette idée, voilà, il ne faut pas qu'on se... les uns et les autres, il ne faut pas qu'on se laisse mettre dans les cordes d'une catégorisation politique. C'est pas notre sujet.
Voire politicienne.
Voire politicienne, ouais, exactement. Moi, je crois que c'est pas notre sujet. Ça, je crois que c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et enfin, moi, je le dis tout simplement, quoi. Je sais pas comment on pourrait imaginer. Moi, j'espère dans les meilleures conditions. Vous avez décrit les difficultés à déboucher sur des solutions vraiment pérennes. Mais je sais pas comment on peut imaginer. Voilà, comment on peut imaginer Toulouse sans vous. Je crois que ça fait... c'est pas... C'est... Bon, là, ça me fait, je vais dire un truc de vieux, quoi. c'est dans le patrimoine, quoi, à Toulouse. Il y a la basilique Saint-Cernin et il y a Mixarmiris, quoi. Non, enfin, voilà, tout le monde soutient.
Tu vieillis bien, tu vieillis bien.
Voilà, trêve de plaisanterie. Moi, je pense que je n'ose pas aussi imaginer que, voilà, s'il y a des risques à courir pour l'avenir de Mixarmiris, ça ne va pas passer crème, quoi. Je veux dire, donc je suis assez optimiste en fait.
Enfin, au nom des nouveaux directeurs, mais je pense qu'ils sont aussi sur la même ligne. Et je suis assez d'accord avec ça là. Bon, je pense que c'est très dangereux pour la municipalité de bloquer un processus comme celui-là. Alors, est-ce que l'interprétation, est-ce que ce ne serait pas profitant de cette vacuité autour du Covid ? Un coup de force un peu de la ville de Toulouse vis-à-vis de la métropole pour peut-être les obliger, même s'ils y sont, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, pour les obliger à prendre position. Je ne sais pas. Ce serait peut-être le scénario optimiste. Après, il y a la politique de gentrification de la ville de Toulouse, dans la vie avec le cœur, avec d'autres trucs, le bleu, etc. Ça, c'est l'interprétation pessimiste, c'est-à-dire on veut éradiquer des foyers de résistance, ceux qui ouvrent leur gueule, et tout ce qui part de la base, et c'est ça. Parce que c'est ça ce qui est le plus important sur Miris, dans l'histoire de Miris, c'est que c'est parti de la base. Tout ce qui part de la base, évidemment, ça n'a pas la caution immédiate des institutions. Et toujours ce combat à mener. Voilà. Maintenant, les interprétations, on verra, hein, comme tu l'as dit, Joël.
Tout à fait, mais on peut rappeler, y compris le pavillon Mazar, une équipe artistique conventionnée, le lieu n'a pas été sauvé par la ville, alors que c'était, y avait toute opportunité à le faire. Hein. Voilà, ils ont décidé, y compris, ils l'ont fait d'un point de vue artistique, de ramener leur gueule avec leur cage à l'ours, mais et ça n'a pas, manifestement, ça n'apporte pas la solution. Quoi. À l'arrivée, le lieu va fermer. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte ambiant. Moi, je vous renvoie au dernier conseil municipal qui a eu lieu avant la trappe des confiseurs. Normalement, vous le trouvez hein, sur le site de la mairie. N'hésitez pas à aller voir ce conseil municipal parce que je trouve qu'il est très riche en enseignements quant à l'évolution des postures. J'emploie ce terme de posture sciemment hein, parce que ça peut ne relever que de la posture, mais ça peut aussi traduire une évolution autre de comment faire politique pour nos idylles, comme on dit.
Les oreilles baladeuses sur Radio Balade.
Et ce conseil municipal, c'était le jour de l'enterrement de Gilbert Vivien, donc créateur du Bleu Bleu, et d'une violence rare. Il y a toujours une théâtralité qui est basée sur la violence hein, au sein de ces entités-là. Ça pourrait en témoigner pour avoir été élu à une époque, dans la relation entre une opposition et une majorité, etc. etc. Mais là, je trouve qu'on passe d'écran, quand j'entends un élu qui est en charge de la démocratie se féliciter de virer un comité de quartier, qui est quand même une entité, on va dire, quand même assez plan-plan, quoi. En tout cas, c'est l'image qu'on peut s'en faire. Un comité de quartier du conseil de quartier, parce qu'ils la ramènent trop, parce qu'ils ont poussé la ville ou la métropole, je ne sais plus exactement, je n'ai pas tous les détails du dossier, devant un tribunal administratif pour vice de forme sur des procédures d'appel à projet dans le cadre de « Dessine-moi la métropole ». Ce genre de choses, je trouve qu'on a quand même à se poser des questions un peu sérieusement. Alors, je ne vais pas jouer les appels au loup, hein, mais pour moi, il y a quand même une forme de se décomplexer d'un œcuménisme, qu'en général, un élu, quand il vient d'être élu, je serai le maire de toutes les Toulousaines et tous les Toulousains, même s'il est encarté, évidemment, sur un parti. Là, j'ai l'impression qu'on n'est plus de ce temps-là. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement qu'on a pu l'écrire, que le délit d'opinion est en train de rentrer dans les mœurs, y compris les mœurs des politiques. Mais je trouve ça relativement inquiétant à titre personnel.
Et dangereux.
Et évidemment, extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il faut qu'on ait quand même une vigilance citoyenne à cet endroit-là assez agile et assez prompte. Et en tout cas, ne pas hésiter à résister. L'histoire de l'abbé Pierre, de la fondation Abbé Pierre du Dalle à la Grave, ça relève aussi des mêmes tenants et aboutissants, quoi. On peut se dire que ça peut mal se terminer, là, dans leur phase de résistance, quoi. Et donc là, on a intérêt quand même à se mobiliser, Mixart là aujourd'hui, mais hier et encore aujourd'hui, c'est Fondation Abbé Pierre, Dalle 31, Act Up et consorts, toutes les assos qui sont concernées par les locaux qu'ils avaient à la Grave. Le pavillon Mazars, c'est en train de plier, ils vont rentrer leurs bagages. Bleu-bleu, c'est fini, physiquement en tout cas, il y a encore un esprit bleu-bleu qui plane sur ces rives de la Garonne. Après, ce sera peut-être à nous de l'entretenir, quoi, aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Mais bon, voilà. Donc nous, on reste ouverts au dialogue. Encore faut-il qu'il y ait des gens pour dialoguer, comme on dit.
Radio Balade
101.8.
101.8.
En fonction, bien sûr, de ce. Vous avez déjà une idée ou vous préférez réserver les surprises au moment où ça arrive?
On va réserver les surprises et puis surtout on ne va pas confronter. Enfin, je ne vais pas parler à la place des amis de Myris, hein, encore une fois, mais comme ils ne vont pas se révéler là tout de suite, histoire de ne pas s'exposer non plus, il y aura sûrement des rendez-vous et qui seront peut-être mieux montés sans exposer les gens à des PV à 135 euros à tour de bras, quoi. Mais après, on reste disponible, enfin, les amis de Myris restent a priori disponibles à pas mal de choses, on va dire, suivant comment évoluent effectivement les décisions et le contexte.
Les oreilles baladeuses sur Radio Balade.
Alors moi, je suis Claire, je travaille dans le spectacle, donc je fais de la sculpture, des décors, et j'ai été plusieurs fois en résidence à Myris avec diverses compagnies, mais je suis surtout une consommatrice active de Myris, de spectacles, de soirées, de concerts, de plein de choses. Voilà.
Moi, je suis Sandro, je suis ingénieur en aéronautique et moi, je suis principalement un visiteur de Myris et j'aime beaucoup cette proposition de culture. Depuis qu'ils étaient à l'ancienne préfecture, rue de Metz, il me semble que je passais rue de Metz vraiment par hasard et en pleine journée, et puis je suis rentré dans ce... dans ce bâtiment avec des vitrines qui étaient décorées. Et donc je suis rentré et j'ai posé la question qu'est-ce que c'était. Et voilà, les gens, à ce moment-là, il y avait une espèce d'accueil en haut d'escalier. Et il y avait des gens là qui m'avaient expliqué. Et en plus, je me souviens à l'époque, dans les locaux, il y avait... plein d'ateliers qui étaient proposés, donc moi j'avais pris des cours de djembé, je sais plus trop ce que j'avais fait, mais j'avais participé à plusieurs ateliers et j'aimais bien cette proposition là aussi. Et voilà, j'étais allé beaucoup à rue de Metz, et puis après quand ils sont installés vers les ponts jumeaux, j'y suis allé un peu moins, mais en même temps maintenant j'y vais régulièrement. J'ai un peu l'impression que il y a un objectif politique actuel que Jean-Luc Moudin, qu'il a eu chaud pour son élection là au municipal, que s'il y avait eu les deux tours de suite, il aurait peut-être perdu son poste, qui l'a très bien vu, donc il a mis les bouchées doubles entre les deux sélections, et il a bien joué parce qu'il a gardé son poste. À mon avis, là, il est en train de se dire s'il veut garder son poste dans 6 ans, il faut faire un peu de nettoyage. Voilà.
Bien, moi je suis une prof de l'enseignement secondaire à la retraite. Et je les connais depuis longtemps, depuis qu'ils sont exactement. Ils étaient dans l'ancienne préfecture. Et je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir que la municipalité ferme lieu de culture et d'expression. Et bientôt, en sera-t-on réduit à une culture officielle ? C'est ça qui fait peur. Donc, on est là pour la liberté d'expression et que les gens puissent s'exprimer et créer dans la liberté, surtout. C'est ce qui nous manque depuis quelques années, et notamment avec ce gouvernement qui est liberticide, quoi. Et donc on est là et on sera là. Voilà.
Moi, mon rapport avec Mérite, moi je suis artiste, je suis musicien. Je m'appelle Pablo. Mon rapport avec Mérite, j'ai fait pas mal de fêtes qui ont été de là-bas. Et après, j'envisageais avec un copain justement de faire des résidences, mais sans savoir que ça allait se terminer. Et du coup, voilà, on vient supporter un peu des lieux comme Miris qui font des actions culturelles chouettes et divertissantes avec plein de choses. Et voilà.
Alors c'est Taïeb, militant des quartiers populaires au nord de la ville. Alors, la Mixart, c'est un lieu... D'abord, ce sont des copains, ce sont des amis, ce sont des militants de la culture et avec lesquels on marche depuis fort longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Et que donc là, ce qui se passe là, c'est pas normal. C'est un scandale, on nous réduit à la fois nos libertés, nos envies de culture, nos envies de rencontre, nos envies de se mélanger, de faire humanité. Donc on nous l'interdit. Et moi je suis très heureux de voir tout ce monde. Là, je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde pour Mixart. Et je pense que Mixart devient une espèce d'étendard. Un étendard de la colère et de la culture et de la liberté. Et moi j'invite donc les copains de Mixart à renouveler cette opération qui me rappelle la mascarade que nous organisions il y a 20 ans, quasiment jour pour jour.
Bon ben on va pas contrarier la fée, hein, parce qu'elle a l'air vachement énervée. Et c'est vrai que nous sommes la vie. La vie contre ce délit d'opinion qu'on essaie de foutre dans la tête. La vie, il va falloir qu'on soit vraiment nombreuses et nombreux à toutes les manifs à venir. Contre la loi sécurité globale, contre le séparatisme. Parce que ça transpire le délit d'opinion. Donc restons vivants. Et en attendant, parce qu'il faut qu'on soit quand même raisonnables. Histoire qu'on ne leur tombe pas quelques perches que ce soit encore. Dans cette bagarre qui ne fait que commencer ou se poursuivre. Donc on va se proposer de se disperser. Il faut qu'on le fasse par petits groupes. Donc n'hésitez pas à faire des petits groupes de 3, maximum 6, en dansant le boléro. Et allez vaquer plus loin. Et on se retrouve très vite. Merci à toutes et à tous.